Bienvenue sur INF, de novice à experte, le podcast qui accompagne le passage de l'école à la vraie vie infirmière. Je suis Karine, ou prof INF, enseignante et infirmière, et ici, on parle sans filtre du parcours de formation, du développement professionnel, des défis du début de pratique comme infirmière et de tout ce qu'on apprend entre les lits et le terrain. Alors aujourd'hui, on prend un moment pour réfléchir ensemble et peut-être mettre des mots sur ce que tu vis ou sur ce que tu t'apprêtes à vivre. Parce que devenir infirmière, là, ça se fait pas en un jour, ça se construit une expérience à la fois. Salut, bienvenue au podcast INF de novice à experte. Aujourd'hui, on aborde le terme de rentabiliser tes études, de s'assurer d'apprendre efficacement au travers de ton programme de soins infirmiers. Mais je pense que tu peux appliquer ça aussi comme infirmière en début de pratique parce que notre apprentissage, il continue même une fois commencé. Donc, il faut que tu retiennes les informations, il faut que tu continues à apprendre au travers de ta progression. Et donc, je pense que mes trucs que je te présente aujourd'hui peuvent être aussi bons qu'en études, là, en soins. En plus, avec le bac, on a l'impression d'étudier quand même assez longtemps si on fait le processus d'être bac. Donc, des fois, le problème, c'est pas nécessairement qu'on n'étudie pas assez, mais des fois, on n'étudie pas toujours de la bonne façon. Puis, des fois, on fait beaucoup de cramming, puis d'apprendre par cœur pour l'examen. Finalement, on se rend compte qu'après l'examen, on n'a rien retenu. L'enjeu avec la profession infirmière, c'est que une fois l'examen passé, tu vas quand même avoir besoin de ces connaissances-là pour quand tu vas aller en stage la session prochaine ou même quand tu vas être infirmière. Ce n'est pas des choses que tu peux flusher là, dans les toilettes directement après d'avoir fait l'examen. Il faut que tu conserves ça parce que réellement, tu en as besoin dans ta profession. Puis même si tu ne penses pas, par exemple, travailler en gériatrie, ben, tu vas probablement croiser des personnes âgées ailleurs ou si tu ne penses pas travailler en psychiatrie, les concepts de psychiatrie sont importants parce qu'il y a de la psychiatrie partout. Il y a de la médecine partout, donc des enjeux de diabète et tout ça. Tu vas avoir des patients dans n'importe quel département qui va avoir ces choses-là. Donc, il faut que tu sois capable de retenir ces informations-là. Donc, aujourd'hui, on va voir des piliers au travers de laquelle je pense que ton étude peut s'articuler puis se construire. Bon, c'est des trucs qui sont un petit peu plus spécialisés aux soins infirmiers parce qu'il y a des trucs aussi que tu as sûrement déjà vu là, sur comment étudier de façon active, comment réviser. Mais aujourd'hui, je te donne des petits insights là, qui, selon moi, en soins infirmiers, sont payants. Donc, on va voir à étudier en pensant aux patients, à pratiquer activement comment que ça peut m'aider et à multiplier les façons de réviser. Donc, si on regarde mon premier truc, c'est d'étudier en pensant à la clinique, au stage, dans le fond. En fait, si tu gardes en tête que quand tu es en stage, quand tu travailles peut-être comme préposé ou comme externe, c'est des moments où est-ce que tu peux étudier. Je pense que c'est une façon de rendre cette étude-là de plus en plus active. Quand tu es en stage, par exemple en médecine ou en chirurgie, puis que tu viens d'apprendre un concept en théorie, il faut que tu trouves une façon de l'appliquer chez tes patients durant ton stage. Donc, même si tu n'as pas un patient qui a ce thème-là nécessairement, ou que, tu sais, par exemple, si tu as vu l'AVC, puis que tu n'as pas nécessairement un patient qui a un AVC, quand tu es en stage le matin même, là, puis que tu relèves son cardex, bien, essaie de regarder, est-ce que mon patient a des facteurs de risque de l'AVC? S'il en présentait un aujourd'hui, comment je le gérerais? Donc, de te poser ces questions-là durant ton stage va faire que tu révises au quotidien tes concepts qui sont à l'examen. Le stage, dans le fond, c'est comme un laboratoire vivant. C'est de l'expérience que tu construis. C'est des images qui vont te rester en tête aussi pour l'examen ou pour plus tard, comme dans ta profession. Donc, il faut que tu maximises ces expériences-là le plus possible. Donc, observativement aussi autour de toi durant le stage, essaie de voir des indices ou des choses qui te rappellent les concepts que tu as vus en classe pour te mettre une image sur ce concept-là. Utilise donc les outils que tu as créés en classe. Donc, par exemple, si tu as pris des notes, si tu as fait un schéma ou un tableau qui compare certains types de complications post-op, par exemple, sors-les, ces tableaux-là, modifie-les au travers de ton stage. Donc, si, par exemple, ton prof te dit que ça, c'était vraiment important pour ce type de patient-là, Ben, souligne-le. Donc, ça, quand tu vas réviser pour ton examen, tu vas te rappeler que ta prof t'a dit que c'était vraiment important parce que je t'ai mis une petite étoile sur ton outil pendant qu'elle parlait. Donc, de mettre à jour tes outils d'études durant le stage, de réviser durant une expérience de stage aussi. Donc, de ne pas attendre nécessairement les questions du prof pour réviser. Souvent, ben, vous allez comme faire les recherches, puis vous allez réfléchir aussi votre patient en fonction de ce que la prof risque de vous poser comme question. Mais je vous propose une nouvelle posture qui est d'utiliser les stages comme un mode d'apprentissage aussi. En fait, c'est ce que c'est, là, au bout de la ligne. Donc, de le rentabiliser, ce moment d'apprentissage-là, en allant chercher le plus d'expérience possible. Donc, des fois, tu as l'impression que tu comprends tout de ton patient, que peut-être tu as fait le tour et qu'il n'y a pas beaucoup de technique, tu n'as pas beaucoup de soins, puis tu pourrais te mettre en posture un petit peu plus passive. C'est un piège. Donc, assure-toi d'être toujours en mode actif durant ton stage. Rentabilise ce temps-là parce que tu vas voir les temps de stage, là, ils passent extrêmement vite. Puis dans pas longtemps, tu vas être gradué et tu vas te dire, oh mon Dieu, j'en prendrai encore des journées de stage pour me sentir plus confortable dans ma profession. Donc, on observe énormément ce que on écoute les rapports des infirmières, ce qu'ils vont dire. Au rapport, vous entendez que quelqu'un a un délirium. Essayez de comprendre c'est quoi ce délirium-là. Donc, c'est quoi les facteurs de risque du patient, juste avec les informations que vous entendez au rapport, par exemple. Et de retourner dans vos livres là, pendant les périodes d'accalmie durant votre stage ou en fin de journée, juste de revoir après le stage, de sortir tes notes, de mettre à jour tes notes en fonction de ce que tu as appris, puis de réviser les concepts au quotidien peut vraiment t'aider là, dans la gestion de ton étude pour ton examen. C'est sûr que durant ton stage, ta prof, elle va t'offrir des occasions d'apprentissage qui sont en lien avec la théorie que vous avez vue en cours. Donc, si tu es en chirurgie, mais tu vas avoir des concepts, c'est sûr, durant ton stage, là, tu as des expériences qui te permettent de réviser, par exemple, les évaluations en lien avec une chirurgie ou les complications post-op et tout, puis les questions de ton prof vont t'amener à ça. Mais donc, prends ça, puis essaie de le prendre comme une expérience d'étude aussi. Donc, prends des notes, assure-toi de mettre à jour tes notes, de souligner qu'est-ce qui s'est passé avec ton patient. Une autre façon d'étudier en stage, qui, je pense, peut être payante, c'est de créer un schéma de concept avec votre patient. Donc, c'est pas obligé d'être un schéma, mais d'essayer de comprendre ton patient sur une feuille 8,5 par 11, puis de faire des liens là, entre les médicaments que ton patient prend, les laboratoires, les antécédents, puis le diagnostic principal, de faire des flèches, puis d'essayer d'avoir un big picture de ton patient, d'essayer de le comprendre. La compréhension, c'est ce qui va t'aider à ce que ça devienne automatique, que tu aies un meilleur jugement clinique. Et donc, à l'examen, ça ne sera pas juste du par cœur. Parce que le plus important à l'examen, c'est de comprendre ce que tu vas écrire, c'est ce que tu vas répondre. Si tu comprends, ça va comme devenir du gros bon sens parce que ça devient comme une évidence si tu comprends bien la physiopathologie. Donc, prends tes cas cliniques, tes patients comme des occasions de compréhension là, pour cheminer dans ton stage puis apprendre pour ton étude à l'examen. Deuxième chose, on minimise parfois là, nos pratiques au laboratoire. On est souvent plus dans l'exécution quand on est au labo, mais c'est une belle occasion pour réviser des concepts de théorie aussi. Donc, quand tu pratiques, par exemple, un soin de plaie ou un. Ça pourrait être, bon, on va prendre le soin de plaie comme exemple. Tu es en train de pratiquer un pansement du serre au pied parce que durant tes cours de théorie, tu as vu le diabète. Puis là, tu es en train de faire un changement de plaie, pas de plaie, on ne change pas des plaies, mais un changement de pansement. Prends cette occasion-là pour réviser les concepts. Donc, questionnez-vous entre vous. Vous êtes souvent en train de pratiquer à plusieurs. Donc, si tu es en train de changer un pansement pendant que tu fais la séquence, puis que tu ouvres ton plateau, que tu fais attention à la sepsie, bien, révise d'autres concepts au travers de ça. Donc, image le patient qui est dans le lit comme quelqu'un de réel avec des antécédents, essaie de comprendre comment il s'est ramassé avec un ulcère au pied, par exemple. Essaie de voir quels facteurs vont aggraver sa cicatrisation. Révise le concept physiopathologique derrière un ulcère diabétique. Donc, essaie de comprendre aussi ce soin-là autrement que juste dans la séquence. Je trouve qu'on tombe souvent dans l'automatisme au laboratoire de suivre la méthode de soins. C'est comme si je suis une recette, mais je ne me pose pas beaucoup de questions. Demande-toi aussi, c'est quoi les alertes cliniques? Qu'est-ce que je dois surveiller auprès, de mes patients avec des ulcères diabétiques, par exemple? Donc, qu'est-ce que je veux surveiller? C'est quoi mes alertes? C'est quoi mes complications possibles? Donc, ce n'est pas juste un lieu ou une pratique qu'il faut que je passe à travers puis que j'automatise. Il faut aussi que j'améliore mes connaissances derrière ces soins-là. Puis, ça va vous aider ensuite pour les examens écrits, puis votre étude, parce que vous allez avoir encore une fois une autre façon, d'avoir vu la matière. Puis, vous allez l'avoir répétée, réorganisée, vue de façon différente à des moments différents. Donc, ça se peut qu'à l'examen, tu te rappelles que quand tu as fait le pansement durant ton laboratoire, tu parlais de ça avec ta collègue, puis que vous avez ciblé les signes et symptômes d'infection, par exemple, ça va te revenir en tête parce que tu as comme une image qui vient avec ça. Donc, c'est le laboratoire aussi, c'est une place où est-ce qu'on peut ralentir puis prendre le temps de faire ces apprentissages-là. Donc, je t'encourage vraiment à prendre ces occasions-là de façon sérieuse plutôt que de jaser de ta fin de semaine pendant que tu fais un pansement. Ce que je vois avec nos étudiants qui performent bien, c'est qu'ils prennent nos pratiques comme des moments sérieux où est-ce qu'on automatise une séquence de soins, mais aussi on développe notre jugement clinique en révisant, en se posant des questions, en étant curieux. Donc, encore une fois, de rentabiliser ton moment que tu es au laboratoire, puis de le prendre comme une occasion d'apprentissage. Encore plus que qu'est-ce que tu penses, donc pas juste une séquence, mais de l'approfondir cette séquence-là, puis de développer ton jugement clinique durant ton laboratoire. Simule à voix haute aussi, donc dis ce que tu vas faire, ça va te permettre d'avoir d'automatiser plus tes soins, donc pas seulement de faire le geste, mais de le dire à voix haute. Ça va te permettre de te poser des questions aussi avec tes collègues. Durant ta technique aussi que tu pratiques, tu peux ajouter de la complexité. Donc, tu peux ajouter des antécédents à ton patient, une complication durant ce soin-là, ou un patient anxieux qui pose beaucoup de questions. Ta collègue, elle peut faire un patient qui va te poser des questions, qui va essayer d'aller chercher des informations. Donc, ça va te challenger, puis ça va te permettre de réviser aussi. Ça, c'est comme ça qu'on passe d'une technique à un jugement clinique, puis un approfondissement de tes connaissances. Donc, c'est une façon d'améliorer ta compétence et finalement d'améliorer ta performance à l'examen aussi au bout de la ligne. Dernier truc là, pour favoriser ton apprentissage puis rentabiliser ton étude jusqu'à l'examen, c'est de multiplier les façons de réviser. Bon, je viens de parler du stage et du laboratoire, mais plus tu révises de façon différente, avec des contextes différents, des façons d'imager les concepts différemment, plus tu vas t'en rappeler, et plus ton cerveau va solidifier sa mémoire. Parce que si tu faisais juste, par exemple, relire et réciter et apprendre par cœur là, de cette façon-là, notre cerveau, on a l'impression qu'on maîtrise parce que dans un certain contexte, je suis capable de nommer ces choses-là. Mais si je le sors de ce contexte-là, c'est là que ça devient challengeant. Fait que le but, avec de changer le plus possible tes façons de réviser, ben c'est justement que tu sois en mesure de contextualiser tes apprentissages, de les mettre dans un autre contexte, en contextualiser, c'est ça que ça veut dire, mais aussi de t'en rappeler davantage, puis que ça reste aussi après l'examen, que ça ne soit pas juste du cramage de cerveau, mais que ça soit quelque chose qui me reste ensuite. Comment on varie? Bien, vous avez plein de trucs que vous mettez déjà en place, là. Il y a plusieurs d'entre vous qui expliquent parfois à quelqu'un comment ils vont expliquer le concept. Donc, des fois, de l'enseigner nous-mêmes, c'est une bonne façon de réviser, de faire des questions, des flashcards, Question-réponse, ça peut être une bonne façon de varier aussi. Et faire un schéma, je vous parlais tantôt des tableaux, des schémas, donc de contraster certains concepts. Donc, par exemple, si dans un tutoriel, le tutoriel, pardon, un cours, tu aurais plusieurs concepts à étudier, diabète de type 1, type 2, fais-toi un tableau qui compare les deux, qui les contraste. Essaie de travailler l'information le plus possible. Tu peux aussi l'organiser, la prioriser. Donc, par exemple, si tu as une liste d'interventions, de choses à faire avec un patient qui est en œdème aigu du poumon, essaie de prioriser ce que tu vas faire en premier. Essaie de t'imaginer en train de le faire. Une autre façon d'organiser aussi votre étude, c'est de se questionner sur qu'est-ce qui est spécifique pour ce problème-là ou ce médicament-là, par exemple. Donc, des fois, on apprend une liste d'interventions, mais il y a des choses qui sont assez générales. Par exemple, pour avant un examen diagnostic ou après un examen diagnostic, ben, il y a toujours d'obtenir le consentement du patient, de lui enseigner la préparation, ou le déroulement de l'examen. Donc, ça, c'est des choses que j'apprends pour tous les examens diagnostiques. Mais après ça, ben, j'ai des particularités pour certaines choses. C'est ça qui est payant d'aller étudier pour un examen avec un produit de contraste, par exemple. Est-ce qu'il faut que je vérifie la fonction rénale? Ça, c'est particulier pour cet examen-là. Je ne fais pas ça juste pour un rayon X. Donc, d'aller chercher les choses qui sont spécifiques, c'est une façon de travailler l'information. Donc, dans tes notes, dans tes tableaux, dans tes schémas, dans les notes de cours, les PowerPoints des enseignants, essaie de voir qu'est-ce qui est spécifique à ton concept. On peut aussi faire de la simulation avec une collègue, avec aussi vos proches, donc de simuler un patient, de faire ta pratique. Même si ce n'est pas un examen pratique que tu t'en vas faire, de le faire en vrai, ça va te permettre d'automatiser puis de t'en rappeler davantage ensuite. Tu peux faire des mini-situations cliniques aussi. Maintenant, il y a peut-être qu'on pourra en reparler dans un autre podcast, mais il y a l'utilisation de l'intelligence artificielle. Elle peut te faire des situations cliniques, des questions d'examen aussi si tu lui donnes des directives. Je sais que plusieurs d'entre vous l'utilisent déjà, mais essaie de penser à des méthodes alternatives comme ça. Tu peux faire des cartes aussi qui te. Des choses essentielles à connaître, mais sans que ça aille dans la grosse liste. Donc, justement, de faire un tri. Plutôt que de mémoriser toute la liste de surveillance, toute la liste de complications, toute la liste d'interventions, essaie de choisir celles qui sont clés, qui sont les plus prioritaires. Parce que c'est sûr que ton prof, il va aller questionner ces choses-là qui sont prioritaires et spécifiques à ta pathologie, ton médicament, ton examen. On n'ira pas vers des choses génériques. Ce qu'on veut voir, c'est si tu as bien compris. Une autre façon, en plus de varier, je pense qu'est-ce qui est important, c'est d'espacer tes révisions, ton étude, donc de ne pas tout faire là, dans le même 24 heures juste avant l'examen. Donc, on parlait durant notre stage tantôt, d'étudier durant le stage, durant nos pratiques de labo. Donc, plein de petits moments où est-ce que je vais étudier. C'est ça qui va faire que je m'en rappelle bien rendu à l'examen. Mais donc, de prévoir mon étude sur plus longtemps aussi, de bien la planifier. Donc, tu sais que tu as un examen dans 3 semaines. Commence dès maintenant à prévoir des blocs d'études pour éviter d'être surpris à la fin. Surpris, mais aussi à faire du cramming, puis à tout se rappeler là, du par cœur. C'est pas ce qui est rentable au bout de la ligne. Finalement, comme façon de varier aussi, mais il y a d'étudier avec plusieurs personnes différentes, donc de trouver des gens qui ont le même genre d'apprentissage que toi. J'ai oublié de vous dire aussi, donc d'étudier avec des personnes différentes, pas seulement seules, puis après ça, d'étudier avec plusieurs formats de référence, OK? Donc, dans le fond, tu as ton manuel, tu as tes notes de cours, mais essaie de varier. Tu peux aller voir sur YouTube s'il y a des vidéos sur les physiopathologies que tu es en train d'étudier. Tu peux aller voir s'il y a des articles dans Perspective infirmière, par exemple, des articles de. Québécois, là, idéalement, mais qui nous parlent des soins avec les patients qui ont, par exemple, le Parkinson. Donc, il y a des articles qui vont réviser ça, qui font de la formation continue auprès des infirmières par l'OEQ. C'est intéressant d'aller voir les documents qui existent aussi en lien avec ça. Il y a l'INES aussi, l'INESPQ, qui a des documents qui peuvent te permettre de réviser les concepts sans que ce soit tes formats que tu as croisés en cours. Les associations aussi, Association du diabète, Association de la sclérose en plaques, tout ça. Souvent, ils vont avoir des vidéos fiables explicatifs, mais en plus des documents pour les patients qui sont explicatifs. Quand tu regardes des documents de patients, souvent, tu vas voir qu'est-ce que tu dois leur enseigner. Puis aussi, ça va vulgariser les concepts, donc ça te permet de voir l'information d'une autre façon. Puis ça, c'est une super bonne façon d'étudier. Donc, en soins infirmiers, je pense que ce n'est pas nécessairement le nombre d'heures d'études qui va faire que tu réussis bien, mais bien comment tu l'as fait, cette étude-là, est-ce qu'elle est rentable? Étudier, pratiquer, varier le nombre de façons d'étudier, rentabiliser mon stage, c'est pas étudier plus longtemps, mais c'est étudier plus intelligemment. Puis je pense que c'est comme ça que vous allez devenir encore plus fort. Pour le segment Q&A cette semaine, ben dans le fond, je suis restée dans le thème de l'étude. On m'a demandé comment faire pour tout me rappeler des médicaments puis de la pharmacologie que je vois en stage, que je vois comme infirmière. Donc, sur le département aussi, quand on commence, on va croiser plein de médicaments. Puis, comment je fais pour me rappeler de tout ça? Comment je fais pour conserver ces informations-là aussi? Donc, j'ai très souvent cette question-là, que ce soit auprès de mes étudiants ou sur les réseaux sociaux. On a l'impression souvent qu'il y en a tellement puis qu'il n'y a rien qui nous reste. D'ailleurs, tu sais, je le vois quand je questionne des étudiants. Des fois, je reviens sur des médicaments qui ont été vus en début de parcours, puis on ne s'en rappelle pas nécessairement. Donc, ça, c'est normal. Première des affaires, c'est normal de ne pas se rappeler de tout ça. Donc, il y a énormément de médicaments à apprendre. Puis, quand on est durant notre pratique, ben, pas notre pratique, mais notre parcours d'étudiant, on change toujours de spécialité, hein, de session en session. Je vois des médicaments différents, mais il n'y a pas de répétition nécessairement. Puis ça, c'est donc plus difficile de me rappeler des effets de ces médicaments-là ou de ces surveillances. Quand vous allez commencer comme infirmière, quand on est sur un département, les médicaments reviennent et puis là, on apprend là, plus rapidement, si on veut, nos surveillances, les choses qu'il faut enseigner, parce que je les croise énormément dans ma pratique. Donc, si je travaille sur un département de cardio, je vais avoir énormément de médicaments cardio, puis je vais devenir à l'aise dans ces classes-là. Donc, premier truc pour bien mémoriser mes médicaments, bien, c'est de les apprendre par classe. Donc, d'apprendre pour une classe en général, un mode d'action en général, et de bien comprendre ces modes d'action-là. Donc, dans le fond, si je comprends bien le mode d'action d'une classe, après, le reste peut comme quand même débouler avec du gros bon sens, finalement, parce que si je comprends dans mon mode d'action que ça vient jouer au niveau des reins, ben, dans mes surveillances, je vais avoir la surveillance de la fonction rénale, par exemple. Donc, si je comprends bien mon mécanisme d'action, je vais être en plus en mesure de cibler mes surveillances puis mes effets attendus. Donc, on n'apprend pas les médicaments, la pharmaco, mais nécessairement médicament par médicament, mais peut-être plus par classe. C'est plus rentable comme ça, puis on va mieux cheminer durant notre apprentissage. Donc, par exemple, on ne mémorise pas 12 sortes de bêta-bloquants différents. On va étudier plus la classe des bêta-bloquants, puis tout ce qui finit par LOL ensuite, tous mes médicaments qui vont finir par LOL, ben, je vais pouvoir me rappeler que ces médicaments-là, ils ont un effet sur la fréquence cardiaque et la tension artérielle parce qu'ils bloquent les récepteurs noradrénergiques. Et ça, ben, normalement, mes récepteurs puis la noradrénaline, ils vont accélérer le cœur puis augmenter ma pression. Là, je viens bloquer ça. Mais pour moi, ça va être donc évident, si je comprends ce mode d'action-là, qu'il faut que je surveille la bradycardie puis l'hypotension chez ces patients-là. Donc, notre cerveau, il va mieux se rappeler des mécanismes que d'une liste de choses par cœur à se rappeler. Un autre truc, encore une fois, je reviens au stage, mais essayez de relier ça à un patient, à une histoire clinique. Ça vous permet de mettre un contexte derrière la pharmaco, puis ça va vous permettre qu'on a une meilleure rétention parce qu'on est ancré dans la clinique puis dans la réalité. Donc, quand tu vois, par exemple, un patient qui a de la fibrillation auriculaire, qui prend des anticoagulants, tu essaies de te rappeler de son portrait clinique. Ça va te permettre de faire des liens, puis après ça, d'avoir une meilleure rétention. Après, on ne se cachera pas, la répétition aide, la révision aussi. Donc, plus on révise, plus on répète, plus on va se rappeler de ces choses-là. Garde-toi des notes, puis tu sais, souvent les étudiants, vous allez utiliser un cahier de notes ou des fiches de médicaments. Ça peut être des schémas aussi sur ces médicaments-là. Ces outils-là, il faut que tu les conserves puis qu'ils te suivent. Souvent, l'erreur que je vois, c'est que vous avez une liste de médicaments pour la journée de votre stage. Vous prenez des notes dans votre cahier ou sur votre plan de travail sur ce médicament-là, puis vous lisez directement du guide de médicaments. Bien, ça vous fait faire une synthèse rapide de votre médicament, mais vous construisez jamais quelque chose qui va vous suivre avec le temps. Donc, que ça soit sur méthode électronique ou en papier, je vous recommande vraiment d'avoir un outil qui suit votre apprentissage en pharmacologie. Donc, j'ai une fiche sur le furosémide. J'ai écrit les choses que j'ai apprises cette semaine sur le furo, mais dans 3 semaines, quand mon patient va en avoir du Lasix ou quand je vais le voir en classe, je ressors ce document-là, puis je viens le modifier, l'améliorer, compléter des choses parce que ma prof m'a dit que ça, c'était vraiment important. Je vais venir souligner ça sur mon outil. Donc, dans 2 sessions plus tard, quand je vais avoir un patient qui a du Lasix, mais je vais avoir quelque chose sur lequel j'ai déjà noté des choses, puis j'ai consolidé. Quand je vais voir ma fiche, je vais faire « Ah, c'est vrai! » Et là, je vais avoir l'air brillant quand je vais dire à mon prof, je me rappelle qu'il y a telle chose. Mais vous ne pouvez pas vous rappeler de tout ça juste avec votre tête dans un monde d'apprentissage. Quand que je commence aussi comme infirmière, mais c'est la même chose, je vais me construire une espèce de bain de notes sur les médicaments, puis quand j'aurai besoin, je peux y retourner plus facilement. C'est beaucoup plus rentable que toujours rechercher dans nos manuels de référence. Donc, votre fiche, elle peut contenir le nom de la classe, le mécanisme, l'indication, les surveillances, les enseignements. Ayez toujours la même structure de ces outils-là parce que notre cerveau aime la répétition de format. Tu vas être capable de le voir dans ta tête, tes notes, si tu as toujours le même format. Donc, ça devient moins écrasant, moins lourd, la pharmaco, si on le fait par petites gouttes et qu'on a des outils pour se permettre dans cet apprentissage-là. Donc, voilà pour c'est une drôle de finale, hein, on s'entend. C'est la fin de notre épisode. J'espère que tu as aimé mes trucs, que ça t'a aidé à cheminer dans ton apprentissage, dans ton étude, pour les examens qui s'en viennent. Je t'ai donné beaucoup de trucs, tu n'es pas obligé de tout appliquer ça, mais je pense que de varier, de rentabiliser nos moments, puis d'être engagé dans notre apprentissage à 100% quand on est en stage, en laboratoire, quand on a des expériences avec la pharmaco et tout ça, c'est comme ça qu'on va finir par cheminer et devenir une infirmière solide dans nos apprentissages, puis dans nos connaissances. Donc, si tu as aimé ce podcast, je t'invite à écrire en commentaire, à partager à des collègues. N'hésite pas à passer le mot que Inf de novice à experte est de retour et est là pour vous aider. Et si tu as des questions, je te rappelle que j'y réponds durant nos podcasts en solo. Donc, n'hésite pas à les écrire sous mes vidéos et podcasts ou sur ma page TikTok directement. Je te dis à la prochaine. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. Bonne journée! Bienvenue sur Inf de novice à experte, le podcast qui accompagne le passage de l'école à la vraie vie infirmière. Je suis Karine, ou prof Inf, enseignante et infirmière, et ici, on parle sans filtre du parcours de formation, du développement professionnel, des défis du début de pratique comme infirmière et de tout ce qu'on apprend entre les lignes et le terrain. Alors aujourd'hui, on prend un moment pour réfléchir ensemble et peut-être mettre des mots sur ce que tu vis ou sur ce que tu t'apprêtes à vivre. Parce que devenir infirmière, là, ça se fait pas en un jour, ça se construit une expérience à la fois.